Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
C'est comme le sport finalement. Pas besoin d'y aller tous les jours si tu n'en faisais pas à la base, sinon tu ne vas pas tenir le rythme. Mais 2 à 3 sessions de 1 heure, personne n'a d'excuse de dire j'ai pas le temps.
Faut pas oublier qu'aujourd'hui on travaille dans des conditions, je pense, extrêmement confortables. On peut rencontrer avec un téléphone ou avec une boîte mail n'importe quel prospect ou cible à travers la planète.
Oui, on a peur de se prendre des murs, mais au-delà de ça, je pense qu'on a vraiment peur de déranger. Et c'est souvent ce qui revient quand on va former les équipes. Les gens n'osent pas.
Il suffit pas d'être une personne extravertie pour faire du call-call. Aujourd'hui, les personnes introverties, leur plus grande qualité, c'est l'écoute.
2 à 3 sessions de 1 heure par semaine, quand on est à son compte, ça peut vraiment tout changer.
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
Elle a mauvaise réputation, elle fait peur, elle est associée à du démarchage. Je suis la prospection téléphonique ou le cold call. Très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast des indépendants pour parler prospection téléphonique. Parce que oui, il n'y a rien de plus concret et de plus efficace que de prendre son téléphone et pour en parler un peu plus d'une demi-heure avec 4 super invités.
Vanessa Amsili, formatrice indépendante, elle forme les entreprises et les indépendants à la prospection et à la négociation, de la rédaction du script d'appel au closing final. Enzo Colucci, expert prospection avec plus de 12 ans d'expérience en vente. Enzo est coach en prospection depuis 3 ans avec 200 entreprises et plus de 2000 commerciaux accompagnés. Enzo est très suivi sur les réseaux sociaux où il dédramatise la prospection téléphonique avec l'humour. Troisième invité, Lucas Blindinger. C'est le spécialiste de l'ultra-personnalisation pour prospecter avec une approche sur mesure. Lucas défend la prospection qualitative. Dernière invitée, Cyriac Caïv. Cyriac, 23 ans, est SDR, chargé de développement commercial. Connu sur LinkedIn sous le nom de l'expert du cold calling, il y partage son quotidien avec un ton décalé.
Bonjour à tous.
Bonjour Ludo.
Bonjour Ludo.
Je suis ravi de vous accueillir pour parler prospection et plus précisément prospection téléphonique parce que c'est vrai que ça fait flipper. Alors on dit cold call hein, plus que prospection téléphonique et je vois beaucoup d'indépendants qui n'ont pas du tout envie de s'y mettre, qui préfèrent parler personal branding et laisser finalement les leads entrer. Pourquoi la prospection, pourquoi le cold call fait autant flipper, Enzo ?
Ça fait peur parce que tout bêtement on n'est pas formé à ça, que ce soit du coup à l'école, peu importe l'école de commerce, c'est que on a été beaucoup démarché aussi par des mauvaises pratiques, notamment en B2C, pour du CPF, pour de la téléphonie, etc. Donc on a une très mauvaise image.
C'est vrai qu'on associe ça à du démarchage. Hein.
Complètement. Et puis mal fait, bien souvent, avec une mauvaise préparation, on écorche le nom, il n'y a pas de rythme, il n'y a rien. Donc les gens ont peur de s'y mettre. Il y a une vraie peur du rejet, il y a une peur du non, en fait, qui fait que les gens ont du mal à passer à l'action.
Et tu le dis, on ne l'apprend pas dans les écoles de commerce, etc. Pourtant, c'est quand même encore aujourd'hui l'outil le plus efficace pour vendre.
Complètement. Bah, en tout cas, c'est le canal d'acquisition le plus direct pour aller chercher des clients, pour se confronter à un marché, pour comprendre réellement du coup qui t'as en face, pour pouvoir aussi t'adapter, réagir du coup sur des offres, et puis surtout prendre du rendez-vous. On va le voir tout à l'heure, l'objectif de la prospection, c'est pas de vendre au téléphone, c'est de caler un moment pour rentrer dans un cycle de vente.
Puis on va le voir aussi avec Cyriac, c'est pas une question de personnalité. Alors je dis avec Cyriac parce que c'est vrai que t'as plutôt une personnalité introvertie, Cyriac, et pourtant tu passes des appels de prospection toute la journée.
Exactement. En fait, j'ai démarré il y a 3 ans la prospection. Je savais pas du tout ce que c'était. Je suis rentré dans ce monde-là et il suffit pas d'être une personne extravertie pour faire du cold call. Aujourd'hui, les personnes introverties, leur plus grande qualité, c'est l'écoute. Et quand on n'écoute pas, on ne s'intéresse pas à son prospect, c'est compliqué. Pour avoir eu la chance de former un de mes collègues qui était une personne très extravertie, bah souvent elle coupait la parole, elle ne s'intéressait pas du tout à son prospect. Ce que j'ai pu faire de mon côté, et aujourd'hui je suis tellement fier de l'avoir fait. Pourquoi ? Parce que j'avais peur de prendre mon téléphone, j'avais peur d'appeler et ça m'a donné aujourd'hui bah, tellement de compétences, que ça soit à l'oral, que ça soit bah, sur la confiance en moi.
Mais j'adore ce discours parce que déjà c'est hyper formateur, c'est aussi de dire on n'a pas besoin d'avoir une personnalité extravertie pour appeler parce qu'on est d'abord là pour écouter. Exactement. Et en plus c'est super formateur. Vanessa ?
Je pense pas que ce soit une question de personnalité, je pense que c'est une question déjà de technique avant tout. On ne se lance pas comme ça dans du call-call sans avoir été préparé en amont sur qui on va appeler, comment on va les appeler, pourquoi est-ce qu'on les appelle. Et donc, la personnalité, peut-être que ça peut aider, en tout cas, mais c'est pas le fondamental.
Moi, je pense que c'est un déclic à prendre et que ça peut tout changer. Et j'ai un exemple très concret avec mon entreprise. J'ai commencé le call-call en octobre de l'année dernière. J'ai fait 3 mois de call-call. J'ai décroché 37 présentations dans des grands groupes. Alors que c'est même pas ce que j'ai atteint en un an avec l'email. Et je pense que quand on a compris ça aussi, on se dit, ok, il faut peut-être que je me challenge, il faut peut-être que j'essaie, il faut peut-être que je tente.
En fait, je pense que tu as un biais cognitif face au cold call qui est celui de la peur de déranger. Enzo, il en parlait tout à l'heure, les gens ont peur de décrocher leur téléphone. Et je pense que c'est vraiment un biais cognitif qu'on traîne depuis l'enfance où on nous dit « dérange pas, parle pas trop fort, arrête de faire du bruit, tiens-toi en place, ne dérange pas les gens, on le voit
on
bien. »
On a peur de se prendre des murs, quoi, concrètement.
Oui, on a peur de se prendre des murs, mais au-delà de ça, je pense qu'on a vraiment peur de déranger. Et c'est souvent ce qui revient quand on va former les équipes. Les gens n'osent pas.
Et pour être plus à l'aise finalement dans cette action de prospection, ce qui est intéressant, c'est l'ultra-personnalisation avec toi, Lucas. C'est vraiment de travailler les profils qu'on va contacter pour savoir à qui on s'adresse, si c'est pertinent. Parce qu'on rappelle quand même, la prospection, c'est pas là pour, on n'est pas là pour déranger les gens, on est là pour leur apporter une solution à une problématique.
Absolument. Déjà, c'est de commencer à comprendre l'écosystème dans lequel évoluent nos cibles. C'est-à-dire que nos cibles aujourd'hui, elles sont très sollicitées et souvent mal. Et donc, c'est d'analyser un petit peu, déjà dans un premier temps, à quoi elles sont soumises au quotidien et de se demander comment on va pouvoir la jouer différemment. Et c'est là où finalement, je trouve qu'il y a finalement assez peu de techniques. C'est quelle accroche il faut que je mette en place en 10-15 secondes pour séduire, considérer. Parce qu'aujourd'hui, la cible nous considère à partir du moment où on la considère. Donc là, on en arrive sur la thématique de l'icebreaker qu'on pourra peut-être évoquer tout à l'heure. Et donc... c'est finalement plus de l'écoute et de l'empathie qu'autre chose.
C'est une solution pour ceux qui hésitent, qui ont peur, etc. Cette ultra-personnalisation en se disant, au moins quand je vais appeler, je serai rassuré parce que je sais pourquoi j'appelle, je sais vraiment qui j'appelle. Mais est-ce que ça ne met pas un peu trop de temps aussi, cette ultra-personnalisation, Enzo ?
Je pense qu'il faut un juste milieu. Moi, je suis hyper d'accord avec Lucas sur tout le sujet de considération, sur tout ce qui est icebreaker, ce que tu joues dans les premières secondes. Après, ça dépend aussi forcément du coup de ta cible. Il faut avoir conscience que quand tu vas cibler des grands comptes, tu vas avoir un travail beaucoup plus approfondi en amont pour savoir du coup ce qu'ils font exactement, parce que tu as aussi moins de comptes à aller prospecter. Quand on fait ce qu'on appelle du SMB, du small mid market, quoi, des petits comptes on va dire, des petites PME avec beaucoup plus de volume, tu peux pas te permettre d'ultra personnaliser toute ta cible en réalité. Donc il va falloir travailler en revanche en amont une segmentation pour essayer de regrouper ne serait-ce que ces cibles-là par famille et trouver des points communs pour quand même arriver à prospecter de manière personnalisée un minimum. Mais on ne peut pas passer trop de temps sur chaque compte. C'est aussi ça qui fait que les gens procrastinent et ne passent pas à l'action. C'est qu'en fait, ils se disent « Ouais, mais alors attends, il faut que je sache absolument tout parce que sinon, je ne peux pas appeler. » Et en fait, ça, je trouve que c'est contre-productif. Donc il faut avoir un juste milieu. Il faut faire de la personnalisation, mais pas se mettre trop de pression, sinon en fait on passe pas à l'action.
Et en même temps, il faut quand même être organisé et segmenté, mais ce que j'aime bien aussi dans ton approche, Enzo, c'est que t'es assez franc hein, sur « let's go » quoi.
Ouais, il faut juste le faire pour se rendre compte que c'est pas grave de se manger un nom et qu'en fait notre famille elle meurt pas et que personne va avoir une maladie grave et que la personne, j'ai envie de te dire, deux heures après, elle se rappelle plus de toi. Donc je rejoins ce que disait Vanessa tout à l'heure aussi, c'est le côté biais cognitif qu'on a. Et en fait, dis-toi que t'as jamais appelé quelqu'un que tu ne connaissais pas pour lui parler de quelque chose qu'il ne connaissait pas. La seule personne que tu appelais que tu ne connaissais pas, c'était quand tu faisais des canulars téléphoniques quand tu étais petit. Allô madame, pipi, hop, et tu raccrochais. C'était ridicule, tu vois.
J'ai jamais fait ça, Enzo.
Moi, je l'ai beaucoup fait avec exactement ce pitch-là.
Lucas, ce qu'il faut bien comprendre pour rebondir sur ce que disait Enzo à l'instant, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à s'approprier des méthodes en se disant ça marche chez le voisin, ça marche sur tel secteur, etc. Et en réalité, c'est vrai que tu n'as pas du tout la même approche de travail en amont, de passer ton coup de fil. Quand ton objectif, c'est par exemple en tant qu'indépendant ou chef d'entreprise de décrocher 3 contrats à 300 000, que si tu vends par exemple un produit assurantiel à 40 euros par mois, où là évidemment tu n'as pas le temps de te demander qui est la personne, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi ses passions, c'est quoi ses loisirs, est-ce qu'elle est intervenue dans un média à droite ou à gauche. Il faut bien réfléchir à ça en amont et ensuite, en fonction de ton panier moyen et de la difficulté moyenne à rencontrer ce genre de cible, et en fonction de ce à quoi elle est déjà soumise au quotidien en termes de prospection entrante, eh bien tu vas effectivement plus ou moins faire de recherche. Et ça peut aller à un niveau très extrême sur certaines cibles, évidemment. Quand je dis extrême, ça peut être passer une heure par jour sur une semaine entière pour creuser, chercher, regarder les archives, les historiques, les médias, et ainsi de suite.
On tombe jamais dans l'espionnage.
Il y a vraiment, pas à ce point, mais il y a vraiment, faut faire attention évidemment, Facebook perso, on évite, mais il y a vraiment différents cas de figure en fonction du contexte.
Et petite astuce d'ailleurs que moi j'utilise beaucoup, c'est simplement de regarder l'actualité de l'entreprise. Hein, on check l'actu, et des fois il y a des actus, et pourquoi pas en cohérence avec ce qu'on propose, c'est encore mieux. Et c'est vrai que souvent on trouve des infos super intéressantes. Ce qui est intéressant aussi autour de cette table, c'est que vous avez des cibles assez différentes tous. Hein. Cyriac, toi, tu prospectes qui ?
Moi, je prospecte principalement des dirigeants de sociétés e-commerçantes. Donc, ça va toucher aussi la partie responsable logistique, responsable e-commerce,
Enzo ?
Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la prospection téléphonique, en réalité, ça s'adapte à n'importe quel type de business. Que ce soit du coup Vanessa ou moi aujourd'hui, on accompagne des centaines de personnes tous les ans à se former sur du B2B, donc des boîtes qui ciblent du business sur du business. Et on a fait aujourd'hui des secteurs d'activité tellement divers et variés, du recrutement, de la logistique, du transport, de la tech, du e-commerce, ce que tu veux, que les gens se disent à chaque fois « oui, non, moi, tu comprends, c'est pas trop adapté à mon business », c'est faux, c'est archi faux.
C'est adapté à tous les business.
C'est adapté à tous les business à partir du moment où la personne, elle a un téléphone sur elle. Au même titre, pourquoi est-ce qu'on se permet du coup de prospecter par mail ? Tu l'as très bien dit tout à l'heure, mais toi, tu as vu d'ailleurs les résultats, la différence entre du mailing et du téléphone, c'est incroyable.
Incroyable.
T'as un téléphone sur toi, il faut en revanche, et peut-être on parlera après data, de où est-ce que je vais chercher la donnée pour contacter directement du coup ces personnes. Mais littéralement, tout le monde a un téléphone. Après, il y a un taux de réponse qui décroît au fur et à mesure des années parce qu'on est beaucoup sollicité, mais tout le monde est capable de répondre. Après, il faut le bon pitch.
Et après, il y a aussi une question d'ego, hein, parce que c'est vrai que quand il y a cet ego, c'est-à-dire que tu te prends des murs, etc., les gens, ils te répondent très mal. Je vous donne un exemple. Là, on enregistre le podcast des indépendants, les conditions, je suis dans une position qui est plutôt...
agréable.
Agréable.
position plutôt du taulier, quoi.
Voilà. Et cet après-midi, je vais appeler une quarantaine de numéros et je vais me prendre une vingtaine de portes. Mm-hmm. Je veux dire, c'est aussi de switcher et c'est d'accepter aussi cet inconfort.
Et c'est le jeu de la prospection. Et on le dit souvent, chaque non te rapproche d'un oui. Si tu t'arrêtes à la première porte, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Tu n'auras donc pas de rendez-vous, donc pas de clients, donc pas de chiffre d'affaires, donc tu vas finir par fermer ta boîte.
C'est très concret, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode et vous l'incarnez très bien, c'est que la prospection pour le business, c'est un levier extraordinaire. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, prendre son téléphone et prospecter, c'est un truc de dingue. Donc il faut passer à l'action si on veut changer vraiment, faire évoluer son chiffre d'affaires. Je le dis vraiment, moi j'ai halluciné et je me suis dit, quand je m'y suis mis, mais Ludo, Oser la vidéo, ça existe depuis 5 ans, tu t'y mets que maintenant. Je me suis reproché d'avoir mis autant de temps à me décider.
Et pour en revenir à l'ego, je pense de toute façon que l'ego est très, très incompatible avec le commerce en général.
Oui.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as décidé, si tu as envie de choisir tes clients et de choisir entre guillemets ce que tu considères comme étant être la crème des clients, bah, il faut mettre ton ego de côté, c'est une obligation.
Oui, après c'est vrai que la prospection téléphonique, je pense qu'il y a une étape quand même, un temps d'acceptation, de dire eh, ok, bah, c'est le jeu.
Jusqu'à ce que ça fonctionne, tu souffres un peu en général,
ouais, exactement.
Surtout si tu n'as pas trop envie de t'y mettre à la base. Par contre, quand tu commences à récolter les fruits, là tu rentres dans une dynamique qui est hyper intéressante, ça devient un jeu. Et t'es très content parce que
ça devient un jeu.
C'est toi qui décides chez qui tu vas, c'est pas de l'entrant, c'est pas du marketing. Alors évidemment, j'oppose pas les méthodes, elles se complètent, mais c'est toi qui choisis qui tu vas voir.
Et puisque tu parles de méthode, Lucas, on donnera des exemples. Bah, comment on appelle, comment on appelle ça, tout le monde sait a priori.
Poser un numéro, ça va.
Prendre son téléphone.
Mais qu'est-ce qu'on dit au début à son interlocuteur ? Vanessa.
Déjà, avant d'appeler, c'est dans quelle dynamique tu dois te mettre. Déjà parce que ce n'est pas un exercice facile, tout le monde le sait, et je pense que Cyriac le sait plus que nous encore autour de cette table.
Exact.
Dans quel état d'esprit tu dois te mettre avant de faire un cold call ? Si tu y vas avec les pieds de plomb, ça ne sert à rien. Parce que c'est très énergivore, parce que tu as besoin de montrer que tu es enthousiaste à l'idée d'appeler, ça doit se sentir dans ta voix, ça doit se sentir dans ton attitude. Et si tu n'as pas ça avant de démarrer ta session de cold call...
C'est mort.
C'est peut-être pas mort, mais ça va être compliqué.
C'est compliqué. Et c'est vrai qu'on le sent parce que quand on appelle avec de l'énergie, quand on appelle avec le sourire, quand on appelle avec l'envie, on sent que l'interlocuteur, il est presque heureux parce qu'on met un peu de soleil là quand il décroche son téléphone et tout de suite le contact s'établit. Il se dit tiens, quelqu'un de joyeux.
Oui.
Je prends.
Il y a vraiment une question de moment. Tu as des personnes qui vont être, une fois qu'elles sont très habituées et très détachées par rapport à l'exercice, elles vont être capables de le faire un vendredi soir après une semaine de dingue.
C'est
une semaine
de l'acting. Hein.
Totalement. Mais vraiment, au démarrage, en tout cas, j'ai tendance à conseiller de trouver son moment. Souvent, ça va être le matin en début de semaine. Il y a une vraie question de moment, notamment au début.
Ouais.
Une fois que tu es hyper confort avec la démarche et que c'est une habitude, tu peux le faire un vendredi soir après avoir fait 50 heures. C'est plus un souci, je pense en tout cas.
C'est de l'acting, Cyriac ?
Avec l'expérience, on va apprendre à prendre le nom, pas personnellement. Pour une personne qui démarre, c'est compliqué. T'appelles une personne, elle va te dire non, je suis pas intéressé, ou elle va raccrocher directement. Et c'est vrai que c'est compliqué de pas le prendre personnellement. Et avec l'expérience, on prend ce recul-là et on se dit qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Rien, parce que la personne, elle va t'oublier 2 heures après. Donc c'est complètement de l'acting, il faut savoir rebondir là-dessus.
On se met dans une posture, quoi.
Et puis au fur
Vanessa.
Et à mesure de l'expérience aussi que tu vas glaner, tu as toujours les mêmes objections. Donc à un moment, tu as aussi des automatismes, tu as des réflexes. qui vont se mettre en place et tu vas savoir comment répondre. Et plus tu passes des calls, et plus les réflexes deviennent solides, et plus tu sais comment répondre. Et à la fin... ça glisse.
Je voulais rajouter du coup sur ce qu'a dit Vanessa aussi et sur ce que tu dis sur la posture, je trouve qu'aujourd'hui c'est important d'être, on l'a dit du coup, enthousiaste solaire. Ce qu'il faut réussir à coupler, je trouve, c'est le côté expert sympa. Quand on appelle quelqu'un, c'est bien évidemment pour faire du business, donc on doit maîtriser son sujet, on doit avoir une posture professionnelle, mais il faut allier ça aussi avec de la légèreté, de la sympathie, quelque chose qui va donner aussi envie à la personne de voir qu'il y a un vrai humain de l'autre côté, ouais. Et qu'on n'est pas justement sur ces fameux gros call centers sur lesquels, dans lesquels on a été noyé et on est justement saoulé de ça en réalité.
D'ailleurs, on le voit quand on appelle avec les interlocuteurs ont tendance un peu à se lâcher et on crée vraiment un échange au-delà de la discussion qui était peut-être initialement prévue. Enzo ?
Bah moi, ce que j'appelle l'effet miroir, c'est que si on se comporte bien avec les gens, qu'on est aimable, dans le lot, il y a forcément un pourcentage de personnes mal lunées qui ont le droit. D'ailleurs, ça, c'est important de le savoir, c'est que les gens, on appelle au mauvais moment, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Est-ce que la grand-mère, elle est partie en foyer la veille ? Est-ce que le chien s'est fait écraser ? Est-ce que l'enfant est malade ? Est-ce qu'il y a eu un décès ? Est-ce qu'ils sont juste engueulés avec un collègue ? On n'en sait rien. Donc, il faut prendre ça en considération et rebondir sur ce que disait du coup Cyriac, de côté, pas prendre pour soi en réalité. Parce que nous, on dérange. Maintenant, il faut déranger pour les bonnes raisons.
Bon, j'espère que là, on a convaincu ceux qui nous écoutent déjà de se dire « Ok, go, je m'y mets, parce que ça rapporte, parce que c'est de l'acting, parce qu'il faut savoir mettre un peu son ego de côté, parce que ça permet de développer son activité. » Maintenant, on va voir un petit peu comment on fait, finalement. La première des choses, c'est de préparer des bases, d'être un peu organisé, c'est super important. Pour commencer, j'ai envie de dire, moi j'ai commencé perso avec une base de 20 contacts. Alors après, on est sur des grands comptes, et puis on l'enrichit progressivement, etc. Je ne voulais pas m'enfermer en fait, tout de suite dans une stratégie avec un CRM, avec tout un bordel. Moi, je déteste ça. Donc, j'ai fait un tableur avec mon assistante commerciale et on a commencé comme ça. Vanessa ?
C'est déjà très bien d'avoir mis ça en place. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la prospection... ça doit s'inscrire aussi dans une routine. La prospection, ce n'est pas juste du one-shot où tu te dis, tiens, mardi, je vais appeler 20 personnes et dans 3 semaines, je vais envoyer 150 mails et un mois plus tard, je vais rappeler 10 personnes. En fait, ça ne marche pas. Donc, ça demande une organisation et ça demande une vraie routine. Et cette routine, tu ne vas l'avoir que si tu peux mettre toutes tes listes, toutes tes informations dans... Alors, toi, tu ne veux pas utiliser de CRM.
Enfin, on utilise Monday.
Ah ben c'est très bien. Cette organisation, ça permet d'avoir un peu une overview de ta prospection. La prospection, encore une fois, c'est pas juste un coup comme ça. Non, il faut qu'elle s'inscrive dans une cohérence tout au long de l'année, tout au long de ta semaine.
C'est de la discipline, quoi.
De la rigueur, de la discipline et de l'organisation. Surtout de l'organisation.
Mais pas besoin non plus de partir sur un CRM hyper complexe, etc.
Ça dépend.
En tout cas, pour commencer.
Oui,
on est pour ceux qui se lancent, qui se disent « Non, c'est pas pour moi. » Enfin, moi, j'entends tellement d'indépendants qui disent « Non, c'est pas pour moi. Je préfère faire du contenu. Je préfère envoyer des emails. » Et pour l'avoir vécu, je sais que c'est un game changer vraiment de prendre son téléphone. Donc moi, c'est vraiment l'objectif de cet épisode, c'est de leur mettre le pied à l'étrier. Enzo.
Un bon Google Sheet, donc à savoir un Excel en ligne, peut très bien suffire quand on est indépendant au départ. Ce qu'il faut en revanche, c'est une bonne donnée. Comme je dis toujours, pas de data, pas de chocolat. Donc en revanche, pas besoin d'investir, comme tu dis, dans un CRM. Là où il faut investir, c'est trouver la bonne donnée. Donc il y a des choses très faciles aujourd'hui qui sont utilisables, notamment comme Sales Navigator, qui est la partie payante de LinkedIn, okay, qui n'a pas besoin d'être fait tout le temps. Moi, ce que je conseille, que ce soit aux entreprises ou aux indépendants, c'est définissez quelle est votre cible, donc à savoir les types d'entreprises, dans ces entreprises qui sont ce qu'on appelle les buyer persona, donc les interlocuteurs à qui on veut parler. Ça, du coup, ça se filtre très facilement sur Sales Navigator. Une fois qu'on a fait ça, on utilise un outil, je vais le citer, Full Enrich, pour exporter directement
et
la base
en un clic,
et on va récupérer les mails, les numéros de téléphone, et à partir de là, on a une bonne data. Bien sûr, on ne trouve pas 100% des numéros, mais il y a bien au moins 2/3 des numéros minimum qui sont trouvables. Et on a de quoi, du coup, bien travailler derrière.
Après, tu parles de Sales Navigator sur LinkedIn. Moi, je trouve que c'est quand même bien le bordel. Hein.
Je suis d'accord.
C'est illisible.
C'est indigeste, ça coûte 100 balles par mois. Il y a des trucs bien plus sympas, comme Pharo, typiquement, PHA20O.
Tu nous donneras les liens, comme ça, on les mettra sous l'épisode. Lucas ?
Bah, disons, Sales Navigator, aujourd'hui, c'est vrai, montre des limites. Faut aussi savoir que Sales Navigator... recrache entre guillemets la data qui est implémentée par les utilisateurs et parfois elle est un petit peu mauvaise.
Non mais là c'est l'UX que je...
L'UX est mauvaise parce que pour l'instant selon moi ils n'ont pas de concurrents.
100% d'accord. Ils n'en ont rien à foutre en fait, ils ne font pas d'efforts pour améliorer le produit.
Tant qu'on n'aura pas de concurrents sérieux, voilà. Donc aujourd'hui c'est le seul outil.
Ouais.
Donc après ça reste, l'abonnement reste très peu cher. Quand tu vois, je ne sais pas si vous avez sans doute connu à l'époque, on achetait des bases de données il y a 15 ans, payait ça 1 000 € pour 500 contacts qui n'étaient pas qualifiés. Donc moi aujourd'hui quand j'entends Sales Navigator à 90 $ est trop cher, je pense que c'est gratuit. Ok, sincèrement.
Il y a deux options, je trouve, pour la data, Ludo. C'est soit, du coup, on le fait soi-même parce qu'on a les compétences, on veut investir dans quelques petits outils, notamment ceux que là, on a cité, Faro, Sales Navigator pour faire des recherches, du Full Enrich pour enrichir. Il y a carrément même un Human Linker qui remplit, du coup, tout ça. Ou alors, en fait, on délègue à quelqu'un qui sait le faire pour nous. Et il ne faut pas avoir peur d'aller trouver. Ce que tu dis, c'est très juste, Lucas. À l'époque, on payait des bases de données, des fortunes. Aujourd'hui, surtout, ne faites pas ça. N'achetez pas des bases toutes faites. La donnée, elle est obsolète. Vous payez un bras pour rien du tout. Prenez des petits freelances aujourd'hui qui existent. Vous les trouvez sur LinkedIn ou les trouvez sur Fiverr, peu importe. Vous leur donnez votre cible. Ils scrapent. Ils vous prennent du coup la donnée. Ils vous la redonnent. Vous payez une fois, c'est fini.
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avoir de la donnée, il n'y a rien de plus évident. Ça, donc ça, zéro excuse.
Indispensable.
C'est hyper simple d'avoir de la donnée. Et ensuite, on l'a dit, si on veut se lancer, c'est de créer une première base, d'être un peu organisé, notamment avec, pourquoi pas, un Google Sheet ou un CRM. Donc, c'est
pour
finalement
démarrer.
Assez simple. Et ensuite, on prend son téléphone. On peut prendre son téléphone perso, enfin, son téléphone pro. On n'est pas obligé de prendre des solutions comme Ringover ou autre. Ce n'est pas forcément utile.
Là, il y a un nouvel acteur qui est arrivé depuis peu qui s'appelle SipSim, qui est en fait le meilleur de la téléphonie parce qu'il passe par les lignes d'Orange. Moi, j'ai tous les outils qui viennent tout le temps me chercher pour faire des partenariats et autres. J'en ai très, très peu. J'ai 3-4 acteurs et j'essaie d'identifier les meilleurs et surtout les plus rentables en termes
Bien
d'investissement.
Sûr.
Pas dépenser
Alors
des fonds
pour rien. Alors moi, j'ai un opérateur à conseiller sur la voix sur IP. C'est Keyyo. Vraiment, c'est hyper fluide.
Okay.
C'est vraiment hyper, hyper quali. Je suis même allé à la campagne avec le téléphone fixe parce que moi, j'aime bien prospecter avec mon téléphone fixe et ça marchait nickel.
Mais là, en plus, on est en train de parler d'entrepreneurs qui veulent se lancer dans la prospection. Un téléphone portable, tout le monde en a un. À la limite, tu te prends une ligne on-off, ça suffit largement si tu ne veux pas appeler avec ton téléphone personnel. Et pour se lancer, t'as juste besoin d'un téléphone, d'un forfait et du réseau. Hein.
Si c'est pour débuter, il vaut mieux un 3310 que 36 outils mal fagotés entre eux qui vont te prendre une charge mentale colossale que tu ne vas pas arriver à maîtriser. Donc, ça va rajouter de la friction. Donc, tu vas te dire au bout de 3 semaines, j'en peux plus de tout ça, j'arrête.
Et donc, tu ne vas rien en faire en plus. Tu ne vas rien en faire, surtout si tu te lances, ça n'a aucun intérêt.
Il va te prendre la tête plus qu'autre chose.
Bien sûr.
Complètement. Bon, alors, on va faire une simulation. Hein. Ça va être l'activité du jour. Comment je démarre quand j'appelle un prospect syriaque?
Alors moi, ce que j'aime bien faire en ce moment, j'aime bien dire bonjour Cyril, c'est Cyriac de Shippingbo. J'ai vu que vous étiez sur LinkedIn et que vous étiez dirigeant chez Nanana. Est-ce que c'est toujours le cas? Souvent, la personne va dire oui. Ça te permet déjà d'avoir son approbation.
Super intro ça, parce que du coup, il va répondre oui, ça crée un échange.
Oui.
Il y a plein d'intros possibles. Il y en a une en ce moment qui nous vient... d'un collègue anglais qui me fait beaucoup rire, où il décroche son téléphone et il dit « Si je vous dis que c'est un appel de prospection, est-ce que je vais complètement ruiner votre mercredi ?» Évidemment, la personne éclate de rire, dit « Non, bon, très bien, est-ce que je peux continuer ?» Oui, c'est une autre manière
c'est
de faire.
Manière.
Je ne suis pas certaine que ça fonctionne en France, mais en tout cas, en Angleterre, ça a l'air de très bien fonctionner.
Et on peut débuter par un icebreaker, Lucas, du coup et c'est là où l'ultra-personnalisation a beaucoup de sens.
Voilà,
icebreaker, pardon, on précise, c'est briser la glace avec une accroche forte.
Voilà, l'icebreaker, c'est l'introduction, si tu veux, et il va être plus ou moins important en fonction d'abord du nombre de calls que tu passes par jour. Et si tu dois rencontrer une cible par mois, mais très costaud, très difficile d'accès, et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser, les cibles les plus difficiles d'accès ou des personnes qui ont beaucoup de notoriété, ou plus ou moins beaucoup de notoriété, ne sont pas les plus difficiles d'accès forcément, parce que plus il y a d'infos à leur sujet dans les médias, sur internet, etc., plus tu peux rentrer avec un icebreaker, donc avec une approche personnalisée de qualité. Donc ce que j'ai tendance à prescrire, en tout cas pour les cas où on travaille sur des cibles un peu difficiles d'accès, on a envie de faire du très personnalisé, c'est encore une fois d'éplucher le web. Alors le but, c'est pas d'y passer des années, c'est de se dire, ok, j'ai à ma disposition internet, je vais sur LinkedIn, ensuite je vais sur Google, je tape le nom et le prénom, le nom de la boîte, sur YouTube, pareil, sur Instagram, pareil, sur Facebook, pareil, pas sur le compte perso de préférence. Et à partir de là, je vais me demander quel est le caractère, finalement, le truc qui m'a marqué, que j'ai trouvé hyper intéressant à propos de cette personne, de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle va faire. Et je vais entamer la discussion à partir de là. Il faut un élément. Il faut éviter vraiment, et ça, c'est un piège quand on veut faire de la personnalisation, de mettre 36 éléments sur la table. Donc, il faut sortir un élément précis, expliquer à la personne pourquoi on l'a trouvé hyper différenciant, d'utilité publique, hyper efficace, pourquoi c'était
novateur. Pour capter tout de suite son attention avec une chose bien précise. Ça me fait penser à un appel que j'ai reçu l'autre jour. Ça a très bien marché. Ça a été de me dire « Bonjour Ludovic, j'écoute le podcast des indépendants. J'aime beaucoup le podcast des indépendants. » Ah bah là, évidemment, la personne avait toute mon attention.
Voilà, alors idéalement, tu vas lui expliquer pourquoi tu aimes son podcast parce que j'aime votre podcast, ça suffit pas.
Moi, ça m'a suffi. Ça voilà, je vais acheter quand même deux canapés. Et...
Si on a besoin d'aller loin, eh bien, on va expliquer donc l'élément qu'on a relevé. Par exemple, j'ai adoré votre podcast, mais surtout pourquoi précisément ? Et en quoi ce podcast, il se différencie de manière très concrète des autres ?
Enzo ? Moi, on a parlé du coup tout à l'heure de la fameuse règle des 10 secondes. Je suis d'accord sur la personnalisation. Je suis d'accord qu'après, il ne faut pas trop en faire. Parce qu'en fait, là, on sait que l'accroche, c'est important parce qu'on a 10 secondes pour convaincre, en tout cas pour séduire, pardon, pas pour convaincre la personne de nous donner un peu plus de temps. Et je trouve que si on en fait trop au début, ça cache quelque chose. Et après, derrière, on a intérêt, en tout cas, à être très, très bon sur la suite du pitch. Moi, j'aime bien dire sur les accroches, j'essaie un peu de recenser ça sous trois grandes familles. Il y a la recommandation. Ça, c'est la plus facile. Bonjour, Ludo. Je vous appelle de la part de Lucas qui m'a dit que ça c'est facile. Et la deuxième qui est plutôt raconter une petite histoire. Et là en fait il y a plein de choses que ça englobe. J'ai vu votre dernier post LinkedIn, je suis passé devant BFM, j'ai vu les bureaux, j'ai pensé à vous. Peu importe, ça peut être n'importe quoi. J'ai vu votre dernier
levé de fonds. Il est malin.
En fait on va raconter une histoire mais très courte juste pour dire je suis passé là, j'ai pensé à vous. Et moi, ma préférée, parce que du coup, je connais le Giulio dont parle ouais. Vanessa, qui est très bien. Je trouve que ça marche très bien sur les pays anglo-saxons, beaucoup moins en France. Le côté « Bonjour Ludovic », c'est un appel de prospection, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'essaie de mettre, et ce dont parlait Lucas tout à l'heure, de la considération au début, du respect. On a dit qu'on dérangeait les gens. Moi, j'aime bien leur dire « Bonjour Ludovic ». Merci de prendre l'appel, je sais que votre temps est précieux, je le respecte, je serai bref. L'objectif c'est qu'on se prenne rendez-vous, je ne parle qu'avec des présentateurs de BFM tous les jours. Et en fait j'essaie de micro-personnaliser aussi le fait que voilà ton poste, voilà ton secteur d'activité, je parle qu'avec des gens comme toi, donc je te montre que j'ai fait un travail en amont, je respecte ton temps, ce que je le verbalise, mm-hmm. et je te dis concrètement pourquoi je viens. Et moi ça c'est un truc parce que j'essaie de me mettre à la place des gens, j'essaie de faire aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse, et quand on tergiverse trop autour du pot au début, où je comprends pas pourquoi tu m'appelles, ça m'énerve. Donc moi, je trouve que c'est important aussi, dès le départ, d'expliquer pourquoi on vient.
C'est là où on voit quand même que, surtout au début, il faut écrire ce qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi une maîtrise de son accroche, une maîtrise du discours. On ne peut pas le faire qu'au feeling. Vanessa.
Et il ne faut surtout pas le faire au feeling, en tout cas au début, quand on se lance. Il faut avoir un script qui est écrit. Moi, ce que je recommande, c'est d'écrire comme vous parlez. Vraiment, avec votre personnalité, il faut qu'elle transpire dans le call, avec votre authenticité, avec le ton. Si vous êtes quelqu'un de plutôt joyeux, il faut que ça s'entende. Si vous êtes quelqu'un de plutôt timide, ce n'est pas grave, mais il faut que ça s'entende. Écrire exactement ce que vous allez dire, la manière dont vous allez le dire. Donc, il ne faut pas faire des phrases alambiquées, il ne faut pas faire des phrases trop longues. Je rejoins Enzo, il faut aller vraiment droit au but. On se présente, on explique pourquoi on appelle la personne et on explique... Pourquoi est-ce qu'elle doit nous écouter ? Et donc, ça rejoint ce que tu dis sur la personnalisation. Il faut qu'elle comprenne très rapidement, en moins de 2 minutes, l'objet de l'appel. Et l'objet de l'appel, c'est un rendez-vous, puisque ça ne sert qu'à ça. On n'est pas là pour vendre. On l'a dit au début, ce call-call, il n'est là que pour prendre du rendez-vous. On ne met pas un pied dans la porte, même si on nous le propose.
Lucas. Idéalement, pour rebondir sur ce que disait Vanessa, même quand tu fais de l'hyper-personnalisation, quand tu l'écris sur ton cahier ou sur ta feuille, il faut que tu te concentres sur un truc qui fasse deux... à grand maximum 3 lignes et demie. Et là, tu sais si tu as la bonne longueur ou si tu risques d'endormir la personne ou d'en faire de trop. Mmh. Parce que hyper-personnalisation ne veut encore une fois surtout pas dire mettre 36 ingrédients sur la table et faire un monologue pendant 40 secondes parce que 40 secondes, à l'oral, c'est déjà beaucoup trop. Tu vois, donc hyper-personnalisation, elle peut se faire sur 3 lignes à l'écrite et il faut les envoyer à l'oral très rapidement et ensuite passer très très vite sur effectivement quel est l'objet et poser une seule question et c'est celle du fameux rendez-vous. À quel moment la personne serait dispo pour un rendez-vous ? C'est la seule question qu'on doit poser.
Je sais qu'Enzo est d'un point de vue un peu différent. Toi, t'es pas très hyper personnalisation. Toi, t'es plutôt quantitatif.
Tout dépend du coup de la cible. Ouais, c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est du grand compte ou pas. Quand tu tapes du grand compte, t'as un travail en amont qui est beaucoup plus poussé. Mais en tout cas, ce travail d'hyper personnalisation, j'essaie plutôt de le faire en termes de segmentation. Je vais aller identifier des boîtes de la même taille, avec les mêmes personas. Pour pouvoir du coup recentrer et avoir surtout les mêmes besoins. On ne parle pas de la même façon à un DAF qu'à un DRH ou une directrice marketing ou commerciale. Oui. Donc c'est important du coup de les regrouper parce qu'on leur vend le même produit mais on leur parle différemment.
Vanessa ?
Le fait de regrouper, ça va aussi fluidifier le discours. Tu dis toujours la même chose, toujours aux mêmes personnes et tu as toujours les mêmes objections. Donc c'est beaucoup plus simple à un moment, ça devient extrêmement fluide, extrêmement facile.
On a dit qu'il fallait être discipliné, on a dit que ça devait être régulier. C'est combien de temps par jour finalement la prospection pour que ce soit efficace ?
Je pense que c'est entre 6 et 7 heures par jour. Non, je rigole, pas du tout. Je pense que c'est 1 heure maximum en tout cas de temps et c'est pour ça que ce que disait Vanessa c'est très juste. Donc avoir la même cible et avoir cette même cadence, être assez rythmé, c'est 1 heure pour une session. Après, dépendamment de ce qu'on fait, ce qu'on vend, est-ce qu'on en fait plusieurs fois par jour, est-ce qu'on en fait plusieurs fois par semaine, l'idéal, moi, je trouve le minimum, c'est 3 heures dans la semaine.
pour pas qu'il y ait d'excuses de « attends, mais en fait, j'ai dit que j'y allais, en fait, j'y allais pas ». C'est comme le sport, finalement. Tu n'as pas besoin d'y aller tous les jours si tu n'en faisais pas à la base, sinon tu ne vas pas tenir le rythme. Mais 2 à 3 sessions de 1 heure, personne n'a d'excuse de dire « j'ai pas le temps ».
Et ce qui est incroyable, c'est que 2 à 3 sessions de 1 heure par semaine, quand on est à son compte, ça peut vraiment tout changer.
Complètement.
C'est et beaucoup. C'est ça qui est fou avec le cold call.
Par contre, il faut absolument les verrouiller dans son agenda. C'est-à-dire que moi, quand je fais l'exercice, j'ai l'habitude, par exemple, d'avoir un créneau sur la matinée, 3 fois par semaine, par exemple. Mais il y a rien qui rentre, il y a rien qui sort. C'est-à-dire que je vais pas promener mon chien, je vais pas prendre mon petit déj. C'est fixe au même titre que si j'avais rendez-vous avec mon client. Et j'ai tendance, quand j'en parle aux gens, à appeler ça. Vous prenez rendez-vous avec votre propre croissance en faisant ça, finalement.
C'est exactement
ça. Au début, ne jamais fixer la barre trop, surtout quand il y a des réticences. Si on parle du début, surtout quand il y a des craintes. Parce que souvent, les personnes ont tendance à se dire « ouais, je suis capable d'y passer 5 heures semaine ». Et souvent, elles ont mis la barre trop. Donc moi, en général, quand on me répond « je peux y passer 5 heures par semaine, je pense », je dis « passe-en 3 ». Mais passe-les vraiment et fais-le à fond. Et encore une fois, tu t'enfermes, tu coupes les notifs et il n'y a pas d'alternative possible. Quoi.
Et tu peux doubler ton chiffre d'affaires, j'insiste, je le rappelle, tu peux doubler ton chiffre d'affaires par rapport à des techniques classiques, c'est vraiment redoutable.
Tout à fait. Et après, encore une fois, on parle d'une heure semaine, 3 heures semaine, 5 heures semaine, ça dépend de ce que tu vends. Si tu as besoin d'avoir 10 clients à 50 000 sur l'année, tu ne fais pas le même volume que si tu dois en avoir 150, tout dépend.
Et Cyriac, je voulais que tu sois là parce que j'aime beaucoup la manière dont tu dédramatises la prospection téléphonique. Sur LinkedIn, normalement, tu as mis beaucoup d'humour là-dedans. Et moi-même, quand je me suis lancé, j'ai pris quelques murs, etc. Je fais « Ah, dis donc, c'est pas facile ». Et c'est en tombant sur tes posts que je me suis dit « Il me fait bien rire » et ça m'a permis de relativiser.
Bah, le problème, quand tu vas sur LinkedIn, tu vois des mecs ou des femmes d'ailleurs qui font des posts. Aujourd'hui, j'ai pris 3 rendez-vous, j'ai pris 5 rendez-vous, j'ai pris 50 rendez-vous semaine. Et toi, t'es là, t'as fini ta journée, t'as pris 0 rendez-vous. Déjà, ton ego, il a pris un coup. Et en plus, ça te démotive. Donc, j'ai essayé de transmettre à travers ces posts que non, il n'y a pas tout le monde qui prend 10 rendez-vous par jour. Voilà, des journées à 0 rendez-vous, j'en ai fait des dizaines, si ce n'est pas avoir une centaine en 3 ans. Donc voilà, il faut
mettre de la légèreté dans tout ça, quoi.
Exactement.
Et, Vanessa.
Et puis il y a une chose aussi, c'est que je pense que c'est bien quand on se lance de se mettre des objectifs qui soient atteignables. Ça ne sert à rien de se fixer des objectifs trop hauts en se disant, allez, en une heure, je vais passer 70 calls. Non, vous démarrez, vous n'allez pas y arriver. Pareil, je veux prendre 5 rendez-vous cette semaine, commencez tranquillement. 1 rendez-vous par jour, puis vous passez à 2, puis vous allez aussi vous roder. Vous allez
déjà, deux rendez-vous par jour, c'est pas mal. Hein.
C'est énorme, ouais, c'est bien sûr. Ouais. C'est énorme.
Le truc qui fait que les gens vont aussi pouvoir tenir, c'est... alors, on coache beaucoup d'équipes avec Vanessa, mais le faire à plusieurs, même si on est indépendant, trouver d'autres potes qui sont aussi entrepreneurs, ou même qui bossent dans des boîtes, qui font du télétravail.
C'est plus sympa à plusieurs.
Bah, en fait, le truc, c'est que tu vas démystifier un peu cette peur. Moi, je le vois du coup en entreprise, quand on met en place du coup ces sessions en groupe, plutôt que d'être en télétravail tout seul, chez toi, que ce soit dans ton salon, dans ta cuisine, là, à te prendre des portes pendant 1 heure, la moindre porte que tu le prends forcément du coup pour toi, ça te fait mal, t'as du mal à te remettre en selle, que si là on est ne serait-ce que tous les 5, même un peu éparpillés, et qu'on se dit qu'on le fait en même temps, quand je vais avoir quelqu'un qui va me dire, putain, allez vous faire foutre et tout, je vais dire, ah putain, il y a quelqu'un qui m'a dit d'aller me faire foutre, et tu vas dire, oh, ben moi je l'ai eu il y a 2 minutes, et en fait, on va démystifier ce moment, désacraliser la peur qu'on a, et on va avoir plus de facilité à se redire, bon, bah en fait, c'est pas grave, allez, on continue, en fait.
Enzo parle évidemment de l'objection ou du non qu'on se prend, mais c'est exactement la même chose avec l'effet inverse. Quand il y en a un dans une équipe qui prend un rendez-vous, la dynamique...
Bien sûr, ça stimule tout le monde.
Mais ça stimule tout le monde et ça attire tout le monde vers le haut et tout le monde a envie d'y aller.
D'ailleurs, Cyriac, toi, tu travailles en équipe.
Ouais, exactement. Aujourd'hui, je fais 0 télétravail. Pourtant, j'ai l'opportunité d'en faire. Hein. On a 2 jours par semaine, donc c'est facultatif après. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas en faire. Pourquoi ? Parce que bah, c'est l'ambiance d'équipe qui me pousse aujourd'hui à faire des calls. Et quand je suis tout seul chez moi, j'ai pas cette envie-là. Et après, je vais rejoindre l'idée du sport. Hein. La prospection, c'est comme aller courir. T'as pas forcément envie d'y aller au départ, mais t'es toujours fier après ta session. Et je pense que, justement, cette équipe te permet de te lancer. T'entends les gens parler, t'entends les gens appeler, et toi, t'as envie de l'appeler.
Même chose que le sport, j'aime beaucoup, du coup, le parallèle... Je dis toujours ça, c'est que si on s'engage tous les deux à aller à la salle de sport ce soir, Ludo, et que moi je vais arriver le matin un peu en traînant les pieds en disant « Ah, oh, j'ai un peu la flemme aujourd'hui », en fait, c'est ta motivation qui va tirer la mine vers le haut en réalité. Et donc le fait de s'engager à plusieurs, pas la peine de faire des groupes immenses. Déjà, vous trouvez un binôme où vous faites ça à 2-3, vous le faites justement 1 ou 2 fois par semaine, vous le faites une fois peut-être dans votre coin, mais une fois, il y a ce moment un petit peu fédérateur et sympathique dans la semaine. Bah, en fait, vous allez voir que vous allez prendre goût et aussi prendre les bons conseils des uns des autres. Le fait de voir la CIA qui va appeler, je vais faire « Ah putain, mais c'est pas mal, j'aime bien bien ton accroche, je vais peut-être la réutiliser. Parce que comme il a dit c'est pas mal. Tout à l'heure.
C'est vrai, c'est idéal. Hein, mais la plupart du temps, les indépendants sont quand même solo et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément la possibilité. Et c'est une opportunité, c'est une occasion.
C'est justement le truc pour lutter contre la solitude. On sait que le truc le plus dur quand on est indépendant, c'est la solitude. C'est d'être du coup tout le seul chez soi, d'être en télétravail, peut-être d'avoir des endroits où on va faire du coworking. Mais en réalité, c'est surtout contre ça que les gens se battent. Et quand on n'arrive pas à faire de la croissance, bah, c'est encore plus dur d'être seul chez soi, justement. Là, on essaie de donner des clés pour que les gens fassent plus de business, mais être seul, c'est compliqué.
Est-ce qu'il existe des trucs en ligne où tu peux le faire en visio avec d'autres indépendants?
Ouais, faut le créer, faut trouver ton petit groupe qui est à peu près au même stade d'avancement que toi, qui a les mêmes enjeux, éventuellement les mêmes difficultés, ce qui n'empêche pas qu'il y ait quelqu'un qui soit très à l'aise.
Oui, parce que c'est pas forcément
un réel.
Il y a plein de groupes, de groupes d'entrepreneurs dans n'importe quelle ville. Il y a plein de groupes d'entrepreneurs sur LinkedIn, t'as plein de groupes aussi, et tu peux le faire en physique. Tu te retrouves dans un cowork ou alors tu le fais Google Meet comme dit Enzo et tout le monde se connecte et tout le monde s'écoute.
C'est encore une bonne raison de sortir de chez soi et de casser la solitude.
Bien sûr.
Complètement.
Et pour finir quand même sur cette prospection, sur ce cold call, moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on réfléchit beaucoup à son produit. C'est-à-dire qu'on est tellement dans l'échange, on détecte beaucoup d'opportunités aussi dans la manière d'adapter son produit, d'adapter son offre. C'est vraiment hyper constructif, c'est un peu comme une étude de marché quotidienne.
C'est un retour réel. C'est-à-dire qu'on est directement confronté à la réalité quand
c'est dans le dur, quoi.
Bien sûr, c'est dans le dur, exactement.
On a tendance à chercher beaucoup de réponses sur quelles pourraient être les objections de nos clients, pourquoi ils achèteraient, pourquoi ils n'achèteraient pas, comment ils veulent faire. Il n'y a pas de source plus efficace que d'avoir la personne en face.
Et d'être constamment confronté à son marché, puissant.
Tu améliores ton discours, tu améliores ton marketing, tu améliores tes posts si tu postes sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn. Tu améliores le fait d'anticiper l'objection dans ton discours initial. Donc c'est, en termes de progression derrière, c'est phénoménal. Ouais.
Tu prends conscience aussi de tes concurrents. Puisqu'on t'en parle, tu ne peux pas connaître tous les concurrents dans ton marché. Donc, tu prends conscience de tellement de choses quand tu fais du cold call. Franchement, allez-y, quoi.
Enzo, je t'ai déjà entendu tenir des discours un peu intenses à l'égard de ceux qui n'y vont pas, quoi.
Parce qu'à un moment donné, il faut juste se prendre en main, quoi. Moi, j'accompagne tous les jours des entreprises et où je pousse les personnes à passer à l'action, en tout cas à essayer de casser toutes ces barrières psychologiques qu'ils peuvent avoir et toutes les peurs. Et à un moment donné, je reviens encore sur cette histoire du sport. C'est que moi, je peux te donner toutes les clés. C'est comme un coach de sport. Si tu veux des abdos pour l'été prochain, je vais pas les faire à ta place. Donc à un moment donné, tu te responsabilises, tu as choisi d'être indépendant, tu sais qu'il y a des très bons côtés pour la liberté financière, tout ce que tu gagnes c'est pour toi, un peu pour Manu aussi. Tout ce que tu vas faire du coup, c'est tu l'as décidé et tu es maître de ton destin. Donc à un moment donné, il faut passer à l'action. Il faut parfois mettre un peu les mains dans le cambouis. Et oui, c'est compliqué quand on n'est pas du milieu commercial à la base, de se dire tiens, je vais faire de la prospection téléphonique. Mais en même temps, si tu testes pas, tu sauras pas.
Moi je pense qu'il y a beaucoup d'indépendants qui nous écoutent, qui ne le savent pas encore, mais ils pourraient vraiment performer en termes de chiffre d'affaires de manière absolument spectaculaire, juste s'ils prenaient leur téléphone. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette émission. Faites-le, c'est un véritable game changer. Il nous reste 30 secondes pour un dernier mot, Enzo.
Mon dernier mot, c'est prenez du plaisir dans ce que vous faites avant tout. Vous avez choisi d'être indépendant, encore une fois, c'est pour travailler sur ce que vous voulez. On parle depuis tout à l'heure, il y a beaucoup d'éthique de travail, de technique, mais en réalité, ce qu'il faut avoir au milieu de tout ça, c'est le plaisir qu'on a à aller cibler justement des gens à qui on a vraiment envie de parler, leur vendre un produit qui nous tient à cœur. Donc juste éclatez tout, mais surtout éclatez-vous.
Il faut le rappeler, c'est qu'on est là pour apporter des solutions. Et quand on apporte des solutions, moi je le vois, les rendez-vous qu'on a, c'est incroyable, quoi. Parce que je me dis, mais oui, mais ça va nous être utile, donc c'est top. Donc c'est tellement gratifiant à un moment donné. Il faut mettre de côté les portes qu'on se prend forcément quand on prospecte. Vanessa.
Et surtout, il ne faut pas oublier que quand on est indépendant, on est le premier commercial de sa boîte. Avant de pouvoir embaucher des équipes, on est le seul à pouvoir prospecter, on est le seul à pouvoir prendre ses rendez-vous, on est le seul à pouvoir vendre son propre produit. Donc il y a quand même plutôt intérêt à le faire.
Lucas, dernier mot.
Aujourd'hui, je pense qu'on a tendance à être soumis à énormément de méthodes qui consistent à dire tournez vos ventes en mode pilote automatique, tout doit tomber, restez devant votre écran. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on travaille dans des conditions, je pense, extrêmement confortables. On peut rencontrer avec un téléphone ou avec une boîte mail n'importe quel prospect ou cible à travers la planète. Mm-hmm. Là où à l'époque, nos grands-parents prenaient une voiture sans clim, faisaient 300 km pour rencontrer un seul prospect sans savoir parfois s'il était là dans la boîte à ce moment-là. Donc on bosse dans des conditions extrêmement confortables. Allons-y.
J'abonde complètement. Je me le dis souvent d'ailleurs. Je me dis, t'as pas forcément envie d'appeler là, mais bon, t'es chez toi, t'es dans ton salon, t'es tout confort. T'as juste à prendre ton téléphone et à parler.
On travaille dans des conditions merveilleuses.
Un dernier mot, Cyriac.
Allez-y, prospectez. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de sortir de sa zone de confort et vous allez vous remercier plus tard de l'avoir fait parce que ça va vous apporter des retours, des compétences que
de l'argent.
Vous n'avez pas, de l'argent. Donc allez-y, j'ai rien d'autre à dire.
C'est la fin de cet épisode du podcast des indépendants sur le cold call. J'espère qu'on vous aura donné envie parce qu'encore une fois, ça peut tout changer. On se retrouve un mercredi sur deux sur BFM Business avec un nouvel épisode. À bientôt.
C'était le podcast des indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badeau et ses invités un mercredi sur deux. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.